France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La vie en situation de handicap sera au programme d'une grande conférence nationale ce mardi. Elle est présidée par Emmanuel Macron à l'Élysée. Emmanuel Macron qui avait fait du handicap l'une des priorités de son quinquennat en 2017. Le chef de l'État doit notamment annoncer aujourd'hui la création d'un numéro d'appel unique pour répondre aux interrogations des familles. Des places supplémentaires dans les établissements spécialisés également. Et puis seront évoquées l'école inclusive, le numérique ou l'assistance sexuelle. Le site devait fonctionner jusqu'en 2032. Il pourrait finalement être fermé dès 2022 ou 2023. La coquerie du site ArcelorMittal de Florange en Moselle est menacée. Entre 230 et 250 personnes sont employées sur ce site, mais la direction du géant de l'acier promet, dans un communiqué diffusé hier soir, promet de proposer un nouveau projet professionnel en interne à chacun des salariés. 3 millions d'euros d'amende pour Carrefour, 1 million pour Système U, 200 000 euros pour Intermarché. Trois géants de la grande distribution sont condamnés pour ne pas avoir respecté les négociations commerciales avec leurs fournisseurs l'année dernière. Condamnation décidée par la Direction générale de la concurrence. Vers un accès facilité aux soins palliatifs à domicile pour les patients en fin de vie. Après les recommandations de la Haute Autorité de Santé hier, le ministère de la Santé annonce qu'il va rendre disponible dans les pharmacies le midazolam. Il s'agit d'un puissant sédatif jusqu'ici réservé aux hôpitaux. Il pourrait être prescrit par les médecins de ville d'ici 4 mois. Les 5 personnes porteuses du coronavirus aux contaminants en Haute-Savoie sont hospitalisées et dans une situation clinique tout à fait rassurante. C'est ce que disait hier le directeur général de la Santé. Il indique aussi que tous les tests réalisés dans le département sont négatifs. En France, je vous le rappelle, 11 cas de coronavirus sont toujours avérés. En Chine, en revanche, le bilan s'alourdit encore et passe la barre du millier de morts. 1011 morts très précisément et plus de 40 000 personnes contaminées.
Tous les jours sur France Culture, recherche, découverte, histoire des sciences, science-fiction, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
À un mois du premier tour des municipales, qu'est-ce qui détermine dans notre cerveau nos opinions politiques? Nous aurons également en plateau deux prix Nobel, Gérard Mourou et Donna Strickland pour nous parler des lasers, et nous irons nous égarer dans les rues de villes imaginaires, de Coruscant à Métropolis, en passant par la sombre Gotham, comment la science-fiction remodèle l'espace urbain du futur.
La méthode scientifique, du lundi au vendredi à 16h et sur franceculture.fr.
Du 7 au 16 février, 30e édition du Festival Présence 2020, Festival de création musicale de Radio France, consacré au compositeur anglais George Benjamin. 18 concerts, 80 œuvres, 24 créations mondiales, 11 créations françaises, 60 compositeurs, plongés au cœur de la création. Informations et réservations, maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio, tôt le matin ou en podcast, quand vous voulez. Tous les mardis, c'est l'actualité des expositions et aujourd'hui, on va à Lyon. Le musée des Beaux-Arts de Lyon présente jusqu'en mars une exposition sur un thème qui n'a jamais été abordé en tant que tel, le drapé. Et pourtant, depuis la nuit des temps et des représentations, le drapé n'a cessé d'influencer, de fasciner même les artistes à travers les siècles. Comment cacher les corps pour mieux révéler les formes? Depuis l'Antiquité donc, et jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, l'exposition propose une réflexion sur l'évolution de la représentation de la draperie et des plis à travers le temps, et surtout à travers la peinture, la sculpture, le dessin, la photo, la vidéo. Drapé, c'est le titre de l'exposition, c'est jusqu'au 8 mars 2020 au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et notre invité ce matin est le co-commissaire de l'exposition, Éric Pagliano.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Éric Pagliano.
Bonjour.
Toute cette semaine, on s'intéresse à la culture dans toute la France, dans toutes les villes de France. Là, on va parler de Lyon, vous êtes plutôt bien loti en matière culturelle. avant de parler de l'exposition.
À Lyon ?
Oui.
Oui, je crois que la ville recèle de nombreux trésors et de nombreux musées.
Et d'une politique culturelle adéquate ?
Je pense, oui. En tout cas, le Musée des Beaux-Arts de Lyon organise des expositions très importantes chaque année. Celle-ci se termine le 8 mars. Et elle est unique en son genre. On n'en a jamais fait avant et je crains qu'on n'en fasse jamais après.
Pourquoi ? Parce qu'il fallait vraiment avoir des moyens pour réunir ces 250 œuvres que vous exposez, pour tracer une petite histoire du drapé de l'Antiquité à nos jours ?
Il faut des moyens, effectivement, des moyens budgétaires, des moyens intellectuels aussi, pour réunir toutes ces œuvres. Ça a demandé plus de 4 ans. Toutes les civilisations, toutes les périodes sont concernées par le drapé, donc il fallait faire des choix. Suivre une problématique qu'on va certainement aborder et voyager dans les collections publiques et privées pour obtenir les prêts, aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis.
Le drapé, donc. S'il fallait raconter cette exposition...
On n'a pas voulu esquisser une histoire du drapé, en ce sens que nous n'avons pas privilégié une présentation chronologique au sens historique du terme. Donc on commence pas par le commencement, supposé. Généralement, tout commencement est mythique. Pour la civilisation occidentale, c'est l'Antiquité grecque et romaine.
Très présente dans cette
Très
fait.
Présente, enfin, à travers une seule œuvre. On continuerait par le Moyen-Âge, ensuite par la Renaissance, puis l'époque moderne et le XXe siècle. On n'a pas suivi cet ordre-là pour dire que le drapé naît, se maintient, renaît et meurt. Non. On a choisi un autre angle de vue, une autre problématique, un autre axe. Celui des processus de création. Donc comment les artistes mettent en place une forme drapée, une composition réunissant des figures drapées. De la Renaissance jusqu'à maintenant, mais aussi en deçà et un peu au-delà. On a des œuvres qui datent d'avant-hier, je dirais, ou même d'hier, qui ont été réalisées pour l'exposition. Donc voilà le fil rouge qui a permis de réunir 248 œuvres ainsi que des vidéos.
Ça c'est le fil rouge, il fallait parler de l'origine, de cette envie de traiter ce thème.
Alors l'envie, elle est liée à nos histoires respectives, la mienne et celle de Sylvie Ramon qui est la co-commissaire de l'exposition qui dirige le musée des Beaux-Arts de Lyon. Sylvie dirigeait un important musée à Colmar, le musée Unterlinden, où est conservé le retable d'Isenheim de Matthias Grünewald, qui est un chef-d'œuvre de la peinture occidentale. Et au-delà de son iconographie saisissante, toutes les figures sont drapées de larges plis. Il y a des tentures aussi. C'est une œuvre qui est constellée de draperies. Et moi, de mon côté, j'étais conservateur à Orléans pendant quelques années. Et quand je suis arrivé en 2000 dans ce musée, on m'a demandé d'étudier le fond de dessin qui n'avait
Parce
jamais
que vous êtes
été
spécialiste de dessin. Je oui, rappelle Eric Pagliano.
Je suis devenu spécialiste de dessin à cause ou grâce à mon expérience au musée des Beaux-Arts de Lyon, et j'avais constaté qu'il y avait deux types de dessins, des dessins de nus et des dessins de drapés. Et à l'époque, je faisais pas le lien. C'est par la suite que je me suis aperçu que les deux étaient liés.
Que le drapé était là pour suggérer, pour magnifier les corps nus.
Tout à fait. Le drapé est quelque chose qui à la fois cache, mais aussi montre et révèle le nu, le corps nu. C'est toute une section d'ailleurs de l'exposition, la deuxième.
Comment vous avez conçu cette exposition ? À partir de quelles questions ? À partir de quelles problématiques ?
Alors, on avait deux problématiques qui s'entremêlaient quand on a commencé à étudier ce sujet. On souhaitait évoquer la question de ce qu'on appelle la survivance. C'est la traduction française d'un mot allemand, Nachleben, qu'un historien de l'art germanique, de la fin du 19e, début du 20e utilisé, qui s'appelait Abivarburg, et qui avait étudié le drapé, qu'il considérait comme étant un accessoire, à la fois cachant, montrant le corps, mais un accessoire pathétique, c'est-à-dire qui exprimait des passions, des émotions. Et le point d'origine était placé à l'Antiquité, durant l'Antiquité, bien entendu, tout ceci à la Renaissance renaît. Donc on voulait insister sur cette notion-là à travers la pensée de Warburg, qui a été en partie en France commentée par Georges Didier Berman dans ses différents écrits, notamment ses textes, ses livres qu'il a consacrés à la figure de la Ninfa. Et puis, on voulait également dépasser cette question de la survivance à travers celle de ce qu'on appelait la survenance. Donc comment les formes se mettent en place, comment elles sont étudiées. Car s'il y a survivance, c'est parce qu'il y a eu d'une certaine manière survenance. Parce que les artistes, de génération en génération, ont su hériter à la fois et transmettre l'apprentissage de la forme drapée. On voulait suivre ce fil conducteur à travers l'émergence, l'étude de la forme drapée. Et l'objectif, ça a été de présenter une sorte d'œuvre d'art fictive, d'une certaine manière, qui réunit toutes les étapes, toutes les séquences de préparation d'une figure drapée. Et ce sont les trois parties de l'exposition. La première s'intitule « Les pratiques d'atelier ». Donc on entre, de manière métaphorique, dans l'atelier de l'artiste, à travers les accessoires qu'il utilise.
Donc on est plus dans la fabrique que dans le geste artistique.
Dans la fabrique et à la fois dans le geste. On le voit au fur et à mesure de l'exposition s'exprimer. Et surtout dans la troisième partie, là où on est au cœur même de la draperie, d'où le titre « Anatomie de la draperie », on essaye de disséquer à travers des dessins et des photos, et également des peintures, des sculptures, la forme drapée. On est vraiment au cœur même de la matière représentée, le tissu.
Donc le tissu, et puis surtout comment les pratiques singulières ont évolué pour travailler le tissu.
Il y a à la fois une évolution et une permanence, c'est ce qu'on a voulu montrer au 15e, 16e, 17e, 19e, 19e, et même jusqu'au 20e, pour la question par exemple de nu et du drapé, on s'est aperçu avec Sylvie qu'il y avait des procédés qui étaient inlassablement repris, à la fois de manière permanente, mais avec également des nuances, selon les artistes et selon les époques. Alors quand on parle de nu et de drapé, il faut savoir que la draperie n'a pas de forme en soi, c'est le corps qui donne à la draperie sa forme. Le nu est une forme formante, le drapé est bien entendu revêt le corps, et c'est le corps qui structure même le drapé. Et ça c'est une injonction qui, dès le 15e siècle, notamment à travers un théoricien de l'art qui s'appelle Alberti, qui a publié, pas une publication parce qu'à cette époque l'imprimerie n'existait pas, mais qui a écrit autour de 1435 un traité très important qui s'appelle le De Pictura, de la peinture, traduit en italien, de la pittura, par Alberti lui-même. Et il dit dans ce traité que les artistes doivent, pour représenter le drapé, passer par le stade du nu. Et ensuite, cette injonction se retrouve sous la plume de tous les théoriciens jusqu'au 19e siècle. Et au 20e, on pensait, avec Sylvie, que tout était mort, tout avait disparu. Mais Sylvie souhaitait à juste titre que le 20e se représentait. Donc on a cherché. À l'origine, on voulait constituer tout un dossier préparatoire autour d'un tableau de Balthus, qui s'appelle « La semaine des quatre jeudis ». Car on s'était aperçu, en consultant le catalogue raisonné, que Balthus également travaillait de cette manière. Pour ce tableau, les figures avaient été dessinées nues, puis drapées. Il y avait même des photographies. Malheureusement, on n'a pas obtenu le prêt de ce tableau. Et en visitant une exposition au musée d'Orsay consacrée à Picasso Rose et Bleu, on s'est aperçu qu'en 1905, juste avant le cubisme, Picasso travaillait également de cette manière. Mais dans l'expo, les deux dessins, pour la même figure, étaient accrochés séparément. Il y avait un autre dessin qui était placé entre les deux. On a fait des recherches en consultant les catalogues raisonnés et on s'est aperçu qu'en 1921, à une époque dite du retour à l'ordre, Picasso reprenait également ce procédé de recherche pour un tableau qui est au MoMA à New York et pour lequel il a, pendant tout un été, dessiné, gravé, peint. On a presque une centaine d'œuvres préparatoires pour ce grand tableau, dont un dessin qui est au musée Picasso, qui nous a été prêté, où l'on voit la même figure nue et drapée. Donc c'est fantastique. Non seulement Picasso reprend un thème classique, il s'inspire de Nicolas Poussin et de la Grèce antique, mais en plus il reprend un procédé académique. Donc bon, ça reste exceptionnel dans sa carrière. Mais il y a une sorte de mémoire chez les artistes du XXe siècle. À certains moments de leur carrière, ils retournent vers des procédés de recherche qu'on pensait absolument révolus.
Drapé, c'est au Musée des Beaux-Arts, donc jusqu'au 8 mars 2020, et vous nous expliquez très bien donc les techniques, parce que ça reste aussi une exposition sur comment travailler le drapé, Eric Pagliano, mais ça n'empêche pas aussi de se poser la question sur l'aspect symbolique du drapé. Vous venez de nous dire à quel point le nu et le drapé étaient intimement liés, qu'il fallait passer par le nu pour réussir le drapé, mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'origine, le drapé était là pour détourner le nu, contourner la censure?
Alors,
pas toujours.
Pas toujours.
Ben c'est ça qui est
alors, j'ai en tête une citation de Vasari, qui est un peintre, théoricien, historiographe du XVIe, et qui parle de la vie de Donatello d'une annonciation. Donc, c'est un thème, on ne peut plus religieux. Il dit qu'on voit les cuisses de la Vierge, quoi, qu'on voit la Vierge pratiquement nue sous le drapé. Non pas pour critiquer cet artiste, mais au contraire pour l'encenser, parce qu'il a retrouvé tout simplement l'antique. Donc c'est assez extraordinaire. On est en plein XVIe. Certes, bon, on n'est pas à une époque où dominait la censure. Enfin, je voulais parler du Moyen-Âge, mais je préfère pas m'étendre là-dessus. Mais au XVIe siècle, il y a quand même une prégnance encore assez forte de la religion. Mais Vasari le dit de manière explicite, et tous ces artistes de la Renaissance ont essayé de retrouver ces formes nues. Et même au XVIIe siècle, on a notre critique qui s'appelle Passeri, qui commente une statue également d'une sainte, qui est conservée à Rome, dans une église, d'un grand sculpteur qui s'appelle Duquesnoy, et lui aussi, il célèbre le nu à travers le drapé. Et Théophile Gautier ira dire au XIXe siècle, la draperie, c'est le nu, quoi. C'est fantastique.
C'est le nu ou c'est suggérer le nu?
C'est suggérer le nu, bien entendu. Il faut caresser le nu. C'est des mots que l'on retrouve sous la plume de théoriciens et de critiques et d'artistes. Ne serait-ce que d'utiliser ce mot caresser qui a une connotation érotisante. C'est quand même assez fabuleux. Là, on est au XVIIIe, au XVIIe siècle. Donc, et ça, c'est dit de manière explicite.
Ils étaient beaux. Ils étaient blancs, les draps qu'avait tissés ma mère. Je me revois petit enfant dans notre logis de lumière. Ils étaient beaux, ils étaient blancs, les draps qu'avait tissé ma mère. Je me revois adolescent, hanté déjà par des chimères. Rêve charmant fut le témoin, ces draps que j'aime, à cœur trop lourd, amour trop grand, à ne j'ai pleuré sur moi-même.
Les draps qu'avait tissé ma mère, Pierre Mallard, pour parler de l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'en mars 2020. Drapé, et nous en parlons ce matin dans le Réveil culturel avec le co-commissaire de l'exposition, Eric Pagliano, qui dit drap, dit couleur blanche.
Oui, le drap est associé à la couleur blanche et c'est tout le thème de la conclusion de l'exposition. On aboutit à la dernière salle du musée où sont présentées des œuvres, à la fois des peintures, des sculptures, enfin une seule sculpture et des photos, une installation où domine la couleur blanche et en particulier un drap de Luciano Fabbro. Et toutes ces œuvres, en fait, évoquent le passage de la draperie en tant que motif artistique à la draperie en tant que sujet à part entière, c'est-à-dire que la draperie se fait voile, la draperie se fait fantôme, avec deux photographies de Man Ray où l'on voit Dali drapé, qu'il avait commandé au photographe américain pour la revue Minotaur. Il avait écrit dans cette revue un article où il se plaignait de l'obésité des fantômes. Alors il faut savoir que sur la photo, on voit Dali, bien entendu, tout fluet, tout mince. On reconnaît très bien l'esprit de Dali. Il y a une statue du XVIIIe siècle d'un sculpteur vénitien qui s'appelle Corradini, qui représenterait de manière allégorique la foi. Mais il faut savoir que les plis, ce n'est que plis, cachent et montrent à la fois des seins et tout un corps, bien entendu. Et il y a un triptyque de Zineb Zenira qui s'intitule « Autoportrait en Vierge Marie ». Et cette œuvre est à la croisée, bien entendu, des civilisations occidentales et orientales. Et le drap de Fabreau qui fait écho à la fois au drap du trousseau et au linceul. Donc tous ces objets, ou domine la draperie, deviennent des motifs thématiques, artistiques. On quitte le domaine de la fabrique, le domaine des processus de création pour arriver à la draperie en tant que sujet iconographique.
Et puis aussi en tant que sujet social, même s'il n'est que suggéré, oui. Le drap c'est aussi le voile.
Alors on n'a pas voulu aborder de front des sujets qui font l'actualité d'une certaine manière.
Mais ils sont présents.
Ils sont présents.
La photo des femmes maghrébines voilées, on voit très bien, d'autant plus que effectivement, on peut parler aussi de drapé, on peut même parler d'esthétique du haïk, donc parce que c'est plus un voile traditionnel que le fameux voile qui pose problème parce que intimement lié à une forme de religiosité de la religion musulmane.
Alors, ce sont pas des œuvres qui ont été choisies pour montrer un message de manière explicite. C'est des œuvres qui suggèrent, qui sont toutes en nuances.
Et qui suggèrent quoi?
Alors, qui suggèrent à la fois des sujets qui nous concernent tous, qui sont très actuels, qui sont là, effectivement, le voile islamique. Mais c'est des œuvres qui sont véritablement à la croisée des civilisations et qui posent toutes sortes de questions de manière sous-jacente. Prenons l'exemple du diptyque que vous avez évoqué de Janan Alani. Janan Alani, originaire du Proche-Orient, mais sa mère est irlandaise. Et sur ce diptyque, elle montre c'est l'imbrication à la fois des grandes traditions occidentales et orientales, du voile et du drapé. En ce sens que, d'un côté et de l'autre, puisqu'il s'agit d'un diptyque, sur les mêmes photographies, on voit des membres de cette famille qui sont en partie voilée, en partie dévoilée, en partie drapée, en partie dédrapée. Il y a tout un jeu sur le corps, nu ou en cours de déshabillage, et sur le corps drapé. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'imbrique. Et puis il y a le sens de lecture aussi. Doit-on lire de gauche à droite, de droite à gauche, suivre l'ordre de lecture de l'arabe ou des langues occidentales, qui est bien entendu différent. Donc il y a un jeu, toutes sortes de choses qui sont à la fois esthétiques et politiques, effectivement. Et il en est de même pour le triptyque de Zineb Zenira, ne serait-ce que d'avoir choisi le format triptyque, les trois panneaux, qui renvoient à la tradition occidentale de la peinture religieuse. Le sujet, autoportrait en Vierge Marie. Mais quand on regarde attentivement les trois figures sur ces trois panneaux, c'est effectivement elle en autoportrait, mais voilée. Son visage est voilé. On le devine parce qu'elle n'est pas de face. Elle est de trois quarts. Et là aussi, on est tout en nuance entre l'Orient et l'Occident, entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Voilà. C'est quelque chose qui célèbre d'une certaine manière le caractère hybride des choses, quoi, le mélange. Quoi.
Et puis enfin, pour terminer, le drapé, c'est aussi ce qui sert à cacher une œuvre en cours de finition.
Alors là, vous faites écho, je pense, à une statue, à un plâtre de Rodin, confronté à un bronze également de Rodin. Rodin est un artiste fantastique, et bien entendu, bon, ça, c'est ce que je dis, est une évidence. Mais ce qui le rend, à nos yeux, précieux, c'est qu'il a transformé des processus de création ou des procédés particuliers,
oui,
des pratiques artistiques
qui deviennent de l'art.
Ouais. À part entière. Ouais. Et le plâtre en question, ça s'intitule L'âge des reins drapés. Donc, c'est un titre que le musée Rodin a donné à cette œuvre qui a été redécouverte assez récemment dans les réserves du musée. Et le visage que l'on voit, que l'on entrevoit plus exactement, est celui d'une statue que Rodin avait exécuté bien auparavant, qui s'intitule L'âge des reins. L'âge des reins montre une figure masculine entièrement nue. Et il faut savoir que dans les ateliers, pour conserver les statues, les plâtres notamment, ou les terres cuites, on les protégeait d'un tissu, donc d'une certaine manière d'un drapé. Et Rodin, qui était sensible à toutes ces formes-là, a dû être en admiration devant, dans son propre atelier, les plis du drapé posés sur une version en plâtre de l'âge des reins, et il a transformé ceci en œuvre d'art à part entière. Donc on l'expose. Là, c'est un drapé qui, en fait, s'inspire d'une œuvre antérieure. Les deux œuvres n'appartiennent pas au même stade préparatoire, puisqu'il y a une différence chronologique.
Alors, comment vous voyez justement cette belle pièce, en disant que ça vient nous rappeler que ce qui est caché suscite en nous plus de curiosité, de plaisir, que ce qui va être finalement dévoilé, et que ça sert à ça aussi?
Oui, alors le drapé, ça sert à ça. Alors, ça me fait penser à une anecdote, enfin, à une histoire que raconte Pline l'Ancien dans le livre 35 de la peinture, concernant un peintre grec qui s'appelle Timanthe, qui était désespéré, il n'arrivait pas à représenter la douleur d'Agamemnon face au sacrifice de sa propre fille, Iphigénie. Donc, il n'y arrivait pas. Il a décidé, je voile le visage d'Agamemnon. Et en voilant ce visage, il suggère quelque chose. Il suggère une passion, un pathos. Et c'est beaucoup plus fort, quoi, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on peut imaginer aussi pour le drapé quand on le regarde avec un œil plus érotisant, quoi. Quand on devine ses formes. C'est plus beau, d'une certaine manière, de voir un drapé cachant et dévoilant une forme nue que le nu en tant que tel, quoi.
Ouais. Et en même temps, quand vous dites ça, Eric Pagliano, on vous entend avec une oreille plutôt critique. C'est-à-dire que c'est un débat sociétal. Qu'est-ce qu'il faut cacher? Qu'est-ce qu'il faut pas cacher?
Oui, alors là, je suis dans l'ordre esthétique, quoi. Je suis dans la peinture, je suis dans les arts, quoi. Ouais. Mais pas seulement, puisque bon.
Les
arts concernent la vie, toute la vie,
qui a une résonance,
oui, ouais. Bien entendu, mais là je parle de la vie en général.
Dévoilons les statues ou pas?
Il faut les montrer telles qu'elles sont et les confronter, c'est ce qu'on fait dans l'exposition, on confronte les nus et les drapés en permanence, quoi. Il y a toute une section là-dessus, la deuxième, où on voit la même figure nue et drapée. Alors, il y a environ une quarantaine d'œuvres sur ce sujet-là, de Lorenzo Di Credi, le dessin le plus ancien, jusqu'à Picasso, quoi. C'est cette confrontation qui est assez fascinante, dans le domaine de la photo aussi, d'ailleurs. On a trouvé un carnet qui appartenait à un sculpteur belge, Jacques Delalain, où l'on voit photographier le même modèle vivant nu, puis drapé, quoi, sur plusieurs pages. Quand on avait commencé nos recherches avec Sylvie, on s'était dit, bon, la photographie a dû être utilisée par les artistes également pour penser leur composition. Et on a trouvé ce que l'on cherchait. Il s'est exposé dans une des sections.
Et ça continue aujourd'hui dans les écoles de Beaux-Arts, par exemple? Est-ce que pour représenter le nu, on passe par le drapé ou...
Alors, je ne crois pas que ce soit encore d'actualité. Ceci dit, on trouve encore dans le commerce pas mal d'ouvrages consacrés à l'étude des drapés. Donc il y a une demande, certainement. Et il y a encore des artistes qui travaillent, on a été sollicités lors de la préparation. Mais je ne peux pas vous dire exactement si dans les écoles d'art, il y a encore des cours là-dessus. Les derniers cours, à ma connaissance, qui ont été donnés, remontent à l'entre-deux-guerres par Gaëtan Gastian de Clérambault, qui fait l'objet d'ailleurs d'une section monographique dans l'exposition. À l'École des Beaux-Arts à Paris, c'était le dernier à avoir enseigné la draperie sur modèle vivant à destination des étudiants de l'école.
Et enfin, qu'est-ce qu'on utilise comme tissu pour le draper?
Alors, toutes sortes de tissus, que ce soit la soie, le lin, la laine. Mais comme le dit Reynolds, le drapé, c'est avant tout la forme, quoi.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
L'exposition Drapé, c'est au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 8 mars 2020. Merci Eric Pagliano. Je rappelle que vous êtes un des deux commissaires de cette exposition. Merci d'être passé ce matin pour nous en parler.
Merci à vous.
Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Jean-Louis Deloncle. Bonne matinée et à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Mickey and the Bear, un film d'Annabelle Attanasio. Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible.
This is too much for a kid.
Yeah, well, he's my dad.
Mickey and the Bear, un film d'Annabelle Attanasio, avec Camila Morón. Mercredi 12 février au cinéma. Un film France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le projet de loi réformant le système de retraite est examiné en commission à l'Assemblée jusqu'à ce soir. Mais il y a peu de chances que tous les amendements soient mis au vote. Un échec à venir alors que les associations familiales se mobilisent toujours contre ce texte, vous l'entendrez. Colère aussi des syndicats d'enseignants. Ils estiment que les promesses des revalorisations salariales seront à moitié tenues par le ministère. Tous les enseignants ne seront pas concernés. Dans ce journal aussi, nous irons en Allemagne après l'abandon de la protégée dans Angela Merkel, elle ne prendra pas sa suite. Et puis aux États-Unis, où Donald Trump tire à boulets rouges sur les démocrates, leur primaire continue dans le New Hampshire ce soir, à 9 mois de la présidentielle. Une demi-vérité pour les communistes, un affichage pour la droite. Mais l'article a tout de même été adopté hier soir. Les députés de la commission spéciale sur les retraites ont voté l'article entérinant le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Le gouvernement précise quand même qu'il n'oublie pas la notion d'âge d'équilibre pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Dernière journée d'examen aujourd'hui, alors qu'il reste encore 14 000 amendements. Si la commission ne termine pas le texte, c'est sa mouture de départ qui sera examinée la semaine prochaine dans l'hémicycle de l'Assemblée. Une réforme des retraites toujours contestée donc. Hier d'ailleurs, des associations familiales ont fait part de leur inquiétude, surtout pour les familles nombreuses. Car aujourd'hui, à partir du troisième enfant, une majoration de pension de 10% s'ajoute pour chaque parent. Demain, il n'y aura pas de trimestre supplémentaire et seul l'un des parents obtiendra un bonus de 5% pour chaque enfant. Mieux vaut aussi ne pas avoir de trou dans sa carrière pour les mères de famille. C'est ce que nous explique Jocelyne Le Pivin. Elle préside l'association Make Mother Matter en France.
Je pense que le projet de loi, il n'est pas forcément mauvais en soi si on se positionne sur une famille où les deux parents travaillent, la maman a un bon salaire, tout va bien, elle travaille à plein temps et c'est comme ça toute sa vie. Nous, nous souhaitons nous préoccuper de toutes les familles, donc y compris celles qui vont avoir une vie peut-être un peu plus chaotique, des salaires un peu moins favorables. Et ce que l'on voit, nous, puisque nous sommes quand même assez actifs sur le terrain auprès des familles et des mères de famille, c'est que la précarité qui se met en place lors d'une séparation, lors de chômage, voilà, de multiples situations familiales, la prise en compte de ces cas individuels, elle est pas complètement prévu par la loi, en fait. Une mère de famille qui a une interruption momentanée professionnelle pour élever un enfant, pour quelque raison que ce soit, elle pouvait ne pas avoir de répercussions sur sa retraite future puisqu'elle allait pouvoir choisir les 25 meilleures années. On reconnaît une évolution quand même vraiment très favorable de la répartition des tâches, de la charge mentale, du fait de partager aussi l'arrêt momentané professionnel. Malgré tout, ce sont encore principalement les mères qui font ce choix. Tout naturellement, tout évidemment, ça va se répercuter sur elles.
Voilà maintenant une autre conséquence de la réforme des retraites, la promesse d'augmenter le salaire des enseignants pour augmenter de fait leur pension. Le ministère a promis 500 millions d'euros pour 2021, mais d'après la dernière réunion de négociation, cette enveloppe pourrait ne pas être équitablement répartie. Les syndicats le craignent en tout cas, Alexis Morel.
Des 4 scénarios de revalorisation présentés aux syndicats, aucun ne concerne 100% des enseignants. L'idée est de cibler les jeunes. Le premier scénario propose ainsi 157 euros de plus par mois pour les professeurs en tout début de carrière. C'est significatif, c'est plus qu'un 13e mois. Mais dans ce cas-là, seuls 14% des profs pourraient bénéficier du coup de pouce salarial. À l'inverse, le scénario le plus large concerne 3/4 des enseignants, mais ne permet dans ce cas-là de dégager que 93 euros par mois au maximum minimum pour les plus jeunes, beaucoup moins pour les autres. Mais ce qui fait surtout bondir les syndicats, c'est que seule une partie des 500 millions d'euros promis sera vraiment consacrée à ces primes sans condition. Ce sera la majorité de l'enveloppe, confie le ministère, mais pas la totalité, loin de là. Le reste servira notamment à payer des heures supplémentaires et à indemniser les profs qui acceptent de suivre des formations pendant leurs vacances. Ça, c'est ultra sensible pour les syndicats. Voilà donc les contreparties tant redoutées.
La conférence nationale du handicap se tiendra aujourd'hui à l'Élysée. Elle a lieu symboliquement 15 ans après l'adoption d'une loi majeure pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Emmanuel Macron annoncera à cette occasion plusieurs mesures, notamment davantage de places en établissements spécialisés. La mère de Vanille est toujours en garde à vue ce matin. Elle sera présentée à un juge dans la journée en vue d'une probable mise en examen pour homicide volontaire aggravé. Cette femme de 39 ans a reconnu avoir tué sa fille de 1 an vendredi dernier. Elle devait remettre l'enfant aux services sociaux après avoir passé la journée avec elle. Hier, le procureur d'Angers a fait un point sur cette dramatique affaire, mais des questions demeurent, Antoine Maret.
Y a-t-il une négligence des services de l'aide sociale à l'enfance ? Non, répond le président du conseil départemental du Maine-et-Loire. Pour Christian Gillet, les services ont suivi toutes les procédures et rien ne présageait d'une telle issue.
Depuis 2004, nous avons revu toutes les procédures ici en Maine-et-Loire pour le signalement, la prise en charge des enfants et le maintien, quand cela est possible, du lien parent-enfant. Mais comme l'indiquait M. le procureur, dans les derniers mois, les services avaient remarqué un comportement meilleur, une attention particulière pour sa fille. Et on peut dire qu'il y a eu d'ailleurs, de la part du juge des enfants, un élargissement du droit de visite qui correspond tout à fait à cette amélioration apparente de son état de santé. Nul ne pouvait prédire une telle issue.
Car la mère de Vanille était suivie sur les plans éducatifs et psychologiques. Elle vivait dans le foyer de mère isolée d'Angers depuis 1 an, foyer qu'elle allait devoir quitter. Et selon le procureur, c'est après l'annonce, le 3 décembre dernier, de ce départ, qu'elle aurait envisagé de tuer sa fille. Sauf qu'aucun signe ne laissait penser un tel passage à l'acte, selon le procureur. L'enfant était confié au département, la mère avait un droit de visite d'une journée et une nuit par semaine accordé par le juge, un droit de visite sans tiers pendant lequel le drame s'est produit. Le procureur d'Angers précise qu'il y a une zone dans laquelle on doit pouvoir essayer de restaurer des liens entre mère et enfant et il ajoute que dans cette zone, il n'arrive que très peu de drames.
Revenons maintenant sur cette surprise politique de taille en Allemagne. Celle qui était souvent désignée comme la dauphine d'Angela Merkel refuse de briguer le poste de chancelière. Annegret Kramp-Karrenbauer, aussi surnommée AKK, ne veut pas être chancelière. Elle renonce aussi à la présidence de son parti, la CDU. Pour la remplacer, il y a au moins 3 prétendants et certains envisagent un virage à droite, Ludovic Piétenu.
Le favori, c'est Friedrich Merz. C'est contre lui qu'Annegret Kramp-Karrenbauer avait remporté de justesse la présidence de la CDU il y a 14 mois seulement. Une victoire de Merz symboliserait un retour aux racines plus conservatrices de la CDU. Merz est un avocat de 64 ans qui ne porte pas Angela Merkel dans son cœur. Hasard du calendrier, il a quitté la semaine dernière son poste de gestionnaire d'actifs chez le géant BlackRock. On peut citer aussi Jens Spahn, un autre adversaire d'AKK. Il avait terminé 3e lors de la course à la présidence. C'est le plus jeune, 39 ans, il est ministre de la Santé. S'il était lui aussi, en décembre 2018, très critique des années Merkel, il a depuis 1 an adouci ses positions. Plus central encore, Armin Laschet, 58 ans, il dirige le Grand Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et il contrôle la plus grosse fédération de la CDU en Allemagne. Il a toujours été loyal envers la chancelière Merkel.
Ludovic Piétenu à Berlin pour France Culture. Le parti nationaliste irlandais, le Sinn Féin, devient la 2e force politique du Parlement. Les Républicains sont partisans de la réunification de la province britannique d'Irlande du Nord avec la République d'Irlande. Ils veulent une place dans le futur gouvernement. Impossible, a déjà répondu le centre droit sortant. Aux États-Unis, on vote aussi côté démocrate pour les primaires en vue de la présidentielle de novembre prochain. Après l'Iowa la semaine dernière, les candidats sont dans le New Hampshire, dans le nord-est du pays. Résultat attendu la nuit prochaine, si tout se passe bien, contrairement à ce qui s'est déroulé dans l'Iowa. Et pendant ce temps, dans le New Hampshire également, Donald Trump, adversaire des démocrates, est en campagne pour sa réélection. Écoutez.
Le Parti démocrate veut réformer votre système de santé, mais il ne sait même pas organiser des caucus dans l'Iowa. Les démocrates, maintenant, c'est le parti des hausses d'impôts, des criminels, des frontières ouvertes, des avortements tardifs, du socialisme et de la corruption. Mon seul problème, c'est que j'essaie de comprendre qui est le plus faible de leurs candidats. Mais je pense qu'ils sont tous faibles. En fait, je crois même qu'on n'a pas vraiment de candidats en face. Alors que nous, les Républicains, nous sommes gonflés à bloc, unis. Et dans 9 mois, on va reprendre la Chambre des représentants, garder le Sénat et aussi la Maison-Blanche.
C'était Donald Trump, évidemment traduit grâce à notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. Reportage auprès des démocrates, cette fois, dans le journal de 7h, tout à l'heure. Le temps ce mardi en France métropolitaine sera encore venteux, avec des giboulées attendues sur une grande partie du pays. Le quart sud-est devrait être au sec dans l'après-midi. Mais ce matin, comptez 7 degrés à Paris, Lille, Besançon, 10 à Lyon, 17 degrés à Nice. Il est 6h40, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Dans le journal des idées ce matin, vous vous penchez sur la période d'incertitude ouverte par le Brexit. Oui. Elle est à l'image des évolutions qui se dessinent dans le monde.
Oui, un monde radicalement incertain qui se referme, où le bras de fer devient la nouvelle règle du jeu et où le politique perd la main, estime Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Alors que vont commencer pied à pied les discussions sur tous les aspects des nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, l'éditorialiste clame son ignorance de ce qu'est le Brexit, malgré les dizaines d'études économiques publiées sur le sujet. Et c'est pour lui la grande leçon de l'événement, cette ignorance que désigne et recouvre aussi l'acronyme forgé par les militaires américains pour décrire la géopolitique de l'après-guerre froide, VUCA, pour volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Nous avons cru que la politique et l'économie y échapperaient, écrit Jean-Marc Vittori, que le monde allait devenir plat et donc plus prévisible. Comme le disait l'essayiste américain Thomas Friedman, c'est l'inverse qui se produit. Le son annexe venant du peuple qui a inventé la démocratie parlementaire il y a plus de 3 siècles et désormais l'un des pionniers de sa décomposition, le principe d'irresponsabilité prend le dessus. Irresponsabilité de David Cameron qui a lancé le référendum pour de basses considérations politiciennes, des vainqueurs du vote qui ont fui la scène publique au lendemain des résultats, de Boris Johnson qui porte triomphalement le Brexit alors qu'il avait hésité à choisir le camp pro-européen. Mais la grande leçon concerne donc le monde à venir. Des barrières peuvent surgir n'importe quand et n'importe où dans un monde qui risque désormais davantage de se morceler que de s'unifier. Et les Britanniques pourraient bien en être les premières victimes, avec un royaume au bord de l'éclatement en Irlande et en Écosse. Comme dit Laurent Geoffrin dans sa lettre quotidienne aux abonnés de Libération, le souverainisme est contagieux, ce n'est pas le moindre de ses défauts. Les murs qui s'élèvent et les frontières qui se ferment nourrissent aussi des fantasmes au relent de guerre larvée. Le quotidien Folha de São Paulo, relayé par le site de Courrier International, a révélé un document du ministère brésilien de la Défense qui émet quelques hypothèses plutôt délirantes, comme une attaque au coronavirus lors du festival de musique Rock in Rio en 2039, et qui fait de la France la principale menace militaire pour le pays suite au conflit qui a opposé le président Bolsonaro à Emmanuel Macron au sujet des incendies en Amazonie, l'Amazonie à laquelle le président français avait suggéré d'accorder un statut international. Le quotidien rappelle, non sans une pointe d'humour, le précédent de la guerre de la langouste au début des années 1960, lorsque des navires français pêchaient le crustacé au large du Pernambouc dans le nord-est et qui avait conduit à la mobilisation de bâtiments de guerre français et brésiliens. En l'occurrence, l'épisode le plus guerrier était resté verbal, mais n'a jamais été oublié par les Brésiliens. C'est la phrase fatidique « Le Brésil n'est pas un pays sérieux », couramment attribuée au général de Gaulle, mais en réalité prononcée par l'ambassadeur de France de l'époque. Rappelons que la question de la pêche sera sans doute le prochain contentieux sérieux avec la Grande-Bretagne. Les pêcheurs du continent, qui ont perdu l'accès aux eaux britanniques de Guernesey le 31 janvier, l'ont retrouvé le 5 février et pourrait le reperdre bientôt. Nous voici donc à nouveau dans l'ère des bras de fer qu'incarne à merveille le président américain. C'est pourquoi il est si utile et aussi émouvant de se plonger dans les écrits de New York et de Londres de Simone Veil en 1942-43, rassemblés et parfaitement édités sous la direction de Robert Chenavier chez Gallimard. À l'époque, la philosophe, qui n'a de cesse de rejoindre la résistance sur le sol français, est notamment chargée par les responsables de la France libre d'une mission de réflexion sur la constitution politique à envisager pour l'après-guerre. Comme le rappelle Richard Figuier sur le site En attendant Nadeau, elle finit par donner sa démission du commissariat national à l'intérieur en juin 1943 parce qu'elle a le sentiment que les hommes de la France libre ne parviennent pas à dépasser le stade de l'organisation de la prise du pouvoir après la libération. Si la résistance, pense-t-elle, a ramassé la légitimité jetée au rebut, l'avoir recueillie ne lui confère qu'une légitimité de dépositaire. Pour Simone Veil, la légitimité qui s'impose dans l'exercice du pouvoir lui est conférée par la seule souveraineté qui vaille, la justice. Je cite « Ce qui est souverain, en fait, c'est la force qui est toujours aux mains d'une petite fraction de la nation. Ce qui doit être souverain, c'est la justice. » Vous écoutez France Culture, vous êtes sur France Culture, et oui, et il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
Bonjour. Aujourd'hui, les enjeux. Donc, que reste-t-il de l'optimisme d'il y a 30 ans en Afrique du Sud?
Le 11 février 1990, sortait de sa prison du Cap le matricule 46664. Nelson Mandela, costume et cheveux gris, retrouvait une liberté mise entre parenthèses pendant 27 ans. Il en avait alors 72 et un long chemin à parcourir pour construire la démocratie en Afrique du Sud et guider la réconciliation. Depuis 1994, son parti, l'ANC, le Congrès national africain, est toujours au pouvoir, affaibli par les années Jacob Zuma. Son successeur, Cyril Ramaphosa, doit composer aujourd'hui avec les inégalités sociales, mais aussi avec un ressentiment latent d'une partie de la population contre les travailleurs immigrés. En septembre, des scènes de violence, de pillage contre des commerçants, notamment nigérians ou somaliens, avaient fait 12 morts. Des chauffeurs de camions sont parfois tués directement au volant quand ils sont identifiés comme venant du Zimbabwe ou de Zambie. C'est même Amakwere Kwere, ces étrangers qui avaient cru dans un Eldorado sud-africain et plus encore après la chute de l'apartheid. Bonjour Philippe Gervais-Lomboni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur au département de géographie de l'université de Paris-Nanterre, directeur de publication de la revue Justice Spatiale. Philippe Gervais-Lomboni, comment se sont comportés depuis septembre, depuis ces violences atroces, comment se sont comportés les responsables politique en Afrique du Sud, à tous les échelons, est-ce qu'ils ont su apaiser?
Vous avez, en fait, ces événements ne sont pas des événements spécifiques à septembre dernier, c'est des événements récurrents depuis des années et des années, depuis les années 90. Régulièrement, on a ce qu'on appelle des explosions de violence xénophobe, pour lesquels on a beaucoup de mal à identifier qui procède.
2008, plus de 60 morts. 2015, l'armée avait dû intervenir.
À chaque fois, il y a un élément déclencheur qui est le déclencheur sur le moment, qui est une déclaration d'un homme politique, qui est un événement particulier dans un quartier, et puis une vague de violence qui se déclenche. Mais en arrière-plan, il y a une situation économique dramatique, un taux de chômage absolument qu'on a même du mal à imaginer, puisqu'il est officiellement de 30%. En fait, il est probablement plus proche des 40%, et dans certains quartier encore au-delà. Donc en arrière-plan, il y a cette situation économique, cette énorme déception de la actuelle par rapport à effectivement le moment extraordinaire qu'ont été le début des années 90 et à l'époque, on parlait du miracle sud-africain, on n'est plus du tout dans un miracle. Les hommes politiques, alors à l'échelle nationale, bien sûr, vous avez toujours des déclarations, nous déplorons, nous condamnons, etc. Il y a eu des phases, des moments de protection des étrangers, mais à l'échelle locale, c'est pas la même histoire. À l'échelle locale, des élus locaux justifient, le mot est trop fort, mais enfin, ne condamnent pas.
Et attise parfois, on avait parlé d'un caractère prémédité des violences en septembre, avec dans des bidonvilles où certains blocs de maisons étaient attaqués et pas d'autres. Par exemple, il était question aussi, est-ce qu'il c'est toujours le cas, d'ériger un mur entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe? C'était une volonté politique de qui? Est-ce que c'est toujours en débat?
Non, je crois que c'est un faux débat, je crois que c'est une légende. Les migrants en Afrique du Sud viennent effectivement, alors beaucoup du Zimbabwe, qui continue d'être dans une situation absolument dramatique. Ils viennent aussi du Mozambique, ils viennent du Malawi, mais aujourd'hui ils viennent de partout. C'est-à-dire, ils viennent aussi d'Afrique francophone. Ils viennent effectivement du Nigeria avec une image du Nigeria en Afrique du Sud qui est très très négative. Et puis, ils viennent de la Corne de l'Afrique. Et ce sont des communautés très diverses. Très souvent, beaucoup de ces migrants ont des activités économiques importantes dans la vie des townships ou dans la vie des quartiers informels et même dans les centres-villes. Ils sont souvent commerçants de rue. Ils sont dynamiques. Ils sont venus effectivement là plein d'espoir venant d'une situation où ils n'avaient pas d'issue et puis venant de pays qui n'arrivent plus à accéder à d'autres zones, à l'Europe, etc.
C'est vrai que même la Banque mondiale aujourd'hui dit que ces travailleurs étrangers contribuent à créer de la richesse et de l'emploi en Afrique du Sud. Et Cyril Ramaphosa, donc le président, qui a été un protégé de Nelson Mandela, il réprouve le terme de xénophobe pour qualifier les violences. Il dit que c'est vraiment des violences qu'il faut imputer aux difficultés économiques. Et c'est un Eldorado toujours pour ces migrants, ces milliers de personnes qui tentent de s'y faire une place. Alors Cyril Ramaphosa est à la tête donc d'un pays, mais aussi d'un parti, l'ANC, dont plusieurs cadres dans les premières années, en tout cas de la période post-apartheid, revenaient eux-mêmes d'exil. Ils avaient fui le régime raciste. Est-ce que pour autant ils en sont devenus des antiracistes, en tout cas des responsables politiques qui aujourd'hui travaillent à cet apaisement?
Je ne sais pas si c'est la question centrale de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Cyril Ramaphosa est arrivé au pouvoir après avoir réussi à évincer Jacob Zuma, qui pendant presque deux mandats présidentiels entiers, a mis en place un système de corruption à l'échelle de l'État, plus que de corruption, c'est-à-dire de prise de contrôle du pouvoir politique par des milieux d'affaires corrompus. Et l'ANC a réussi à se débarrasser de Jacob Zuma, disons ça comme ça, en plaçant Ramaphosa, qui effectivement avait l'image de l'homme proche de Mandela, de l'homme le rédacteur de la constitution sud-africaine, mais aussi de l'homme d'affaires extrêmement compétent, avec donc deux espoirs à ce moment-là. La lutte contre la corruption et le rétablissement économique, ses compétences pour rétablir l'économie. Mais il se trouve à la tête d'un ANC extrêmement divisé, dans lequel les partisans de Jacob Zuma restent très puissants. Et ça, jusqu'à la vice-présidence, il a bien fallu qu'il prenne à ses côtés des hommes et des femmes d'ailleurs, très proches de Zuma. Et en fait, il a assez peu de pouvoir sur l'ANC. L'enjeu, c'était vraiment réparer l'ANC pour pouvoir réparer le pays, dans la mesure où il n'y a pas d'alternative politique réelle en Afrique du Sud. Et il n'a ni réussi, pour le moment, à rétablir l'économie. On est un taux de croissance peut-être qu'on sera en récession cette année.
Et une crise de la dette qui pointe aussi.
Une crise de la dette qui est un phénomène nouveau. Des entreprises parapubliques qui sont dans un état catastrophique parce qu'elles ont été pillées. Ce qui donne une crise de l'énergie, parce que c'est le cas de la société qui fournit l'énergie. La société South African Airways est en train de fermer des lignes et des lignes les unes après les autres. Enfin, tout ce qui faisait cette image de puissance de l'Afrique du Sud est en train de s'effondrer. Le chômage monte et la corruption, surtout à l'échelle locale, reste extrêmement forte. Et donc, l'absence de fourniture des fameux services promis dans les années 90, c'est-à-dire de meilleurs logements, des emplois, une meilleure vie.
Et les bénéfices des minerais, or et diamants dont regorgent les sous-sols sud-africains qui continuent à être détournés de leur... De ceux qui devraient en bénéficier, c'est-à-dire la population.
Oui, or et diamants, c'est plutôt... Enfin, or, diamant, platine. Platine et une situation dans les mines qui, alors les mines débauchent, hein, l'emploi diminue dans les mines et les conditions de vie des mineurs se sont terriblement dégradées. Le grand événement de 2012 qui a été un grand virage politique a été une tuerie dans une région de mines de platine et tout ça suscite une amertume terrible dans la population sud-africaine, une déception, une amertume, ce qui fait que à chaque élection nationale aujourd'hui, l'ANC baisse un petit peu. Puisque l'ANC était encore à plus de 60% il y a 5 ans et maintenant plutôt 57 aux dernières élections.
À tel point qu'on se demande si Ramaphosa pourra être à nouveau élu en 2022. Quant à Jacob Zuma, son prédécesseur dont vous dites que ses proches sont encore, gravitent encore dans l'ANC et font du mal à la crédibilité de Ramaphosa, où il travaille en tout cas. Lui, il était quand même, quand il est parti, il était flanqué de 783 poursuites judiciaires. Est-ce que la justice est en train de suivre son cours? Est-ce que Jacob Zuma va payer pour ce qu'il a fait? En tout cas, est-ce qu'il y a déjà eu des procès?
Des choses sont en cours. À mon avis, il sera très peu poursuivi parce qu'il reste un personnage majeur de l'échiquier politique intra-ANC, même si ce n'est pas lui qui reviendra au pouvoir. Mais des gens proches de lui pourraient revenir au pouvoir, et notamment David Mabuza, qui est actuellement le vice-président de l'Afrique du Sud, qui ne cache pas son intention de renverser Ramaphosa dès que possible et de prendre sa place à la tête de l'ANC, puis du pays.
En attendant, Ramaphosa doit travailler sur les dossiers dont il avait annoncé qu'il serait prioritaire quand il s'est fait élire il y a 2 ans, et notamment la rétrocession des terres aux Noirs spoliés. Où en est cette possible réforme de la Constitution qui donc autoriserait d'exproprier sans indemnisation la minorité blanche des terres détenues au détriment de la majorité noire pendant l'apartheid? Et surtout, pourquoi ça n'a pas été réglé en 94 quand la Constitution post-apartheid a été rédigée?
Par manque de moyens, c'était une des grandes promesses de la période post-apartheid, c'était une promesse de l'ANC qui a lancé une double politique de redistribution, d'une part, avec des moyens beaucoup trop faibles pour que ça fonctionne, et qui nécessitait la compensation. C'était l'accord, le miracle sud-africain est un compromis en fait avec la communauté blanche et le pouvoir de l'apartheid, et entre l'ANC et le pouvoir de l'apartheid, et puis par ailleurs une politique de restitution quand on avait été spolié. Trop peu de terres ont été redistribuées. Ils avaient promis 30%, on en a redistribué 7, 8, 9% à peu près. Ça a été remis sur le devant de la scène par le parti d'extrême, alors qu'on va appeler dans notre langage français d'extrême gauche, les Economic Freedom Fighters, et Ramaphosa et l'ANC ont bien été forcés de suivre, même si c'est pas du tout l'idéologie de Ramaphosa. La constitution va être modifiée, on va donc pouvoir exproprier sans compensation. Qu'est-ce que ça donnera? Je pense que Ramaphosa freine des quatre fers tout en poursuivant le débat. Ça va être modifié.
Philippe Gervais-Lombony, pour conclure, vous avez dit tout à l'heure que la question raciale n'est pas centrale aujourd'hui dans les débats en Afrique du Sud. Ça veut aussi dire que nous, d'ici, on continue à voir l'Afrique du Sud comme le pays de l'apartheid, enfin l'ex-pays de l'apartheid, alors que finalement, ceux qui ont connu tous ceux qui aujourd'hui sont nés après la libération de Mandela ou à sa libération, ont aujourd'hui 30 ans et tous les plus jeunes n'ont pas connu l'apartheid. Qu'est-ce que ça implique dans la façon dont l'Afrique du Sud fonctionne aujourd'hui?
Plus de la moitié de la population n'a pas connu l'apartheid. Ça veut dire que le contrat social qui a été passé au milieu des années 90, qui était fondé sur on va réparer l'époque de l'apartheid, est probablement à revoir complètement. Et ça veut dire aussi que la classe politique est devenue très âgée et très déconnectée de cette population qui attend autre chose que des anciens leaders de la période de la lutte contre l'apartheid.
Ce sont des vieux qui se présenteront notamment aussi aux élections municipales de 2021, prochaine échéance électorale. Merci beaucoup Philippe Gervais-Lombony d'avoir été avec nous ce matin. Et puis je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Afrique du Sud, les paradoxes de la nation arc-en-ciel, aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Février 2020, la campagne des élections municipales s'élance en France dans un climat social délétère. D'anciens candidats jettent l'éponge, d'autres jettent leur étiquette. Alors que les citoyens continueraient à croire en leur maire et en leurs élus, quels sont les liens entre identité et culture locale? L'attractivité des régions passe-t-elle par la culture? Comment lutter contre les déserts culturels? Identité, égalité, attractivité, les territoires de la culture, jusqu'au 16 février, semaine spéciale municipale 2020 sur France Culture, un dossier à suivre sur franceculture.fr. Semaine spéciale municipale 2020 sur France Culture, Xavier Mauduit.
Cette semaine, culture et territoire, autrement dit, l'œuf ou la poule. Est-ce la culture qui fait le territoire ou bien est-ce le territoire qui fait la culture? Sans doute un peu des deux dans une longue conversation. Fouilles archéologiques, musées municipaux, fêtes au village et scènes nationales, quel lien étroit entretiennent territoire et culture?
Le cours de l'histoire du lundi au vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
6h57 et vous êtes bien sur France Culture et vous êtes bien avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
Bon, pour votre humeur du jour Guillaume, on n'arrête pas le progrès, on vient d'inventer les Thermomix pour les pieds.
Oui, alors je sais, la formulation peut paraître un peu maladroite, Julie. Qu'est-ce qu'un Thermomix pour les pieds? Eh bien, ce pourrait être la Vaporfly de Nike. Alors,
à ce stade,
deux types d'humains. Alors, bon, je vais rapidement sur le Thermomix, hein, Julie. Ils sont rares ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un robot ménager censé vous transformer en chef étoilé, y compris si vous n'avez aucun talent, le Thermomix tournant et chauffant à votre place. Ça, c'est vrai. Ensuite, est-ce qu'il est admissible de faire bien un risotto au Thermomix, la question mérite d'être débattue. On peut en débattre, hein, d'ailleurs, Julie. Dans le même registre, même si on est loin de la cuisine, est-il admissible de prendre le départ d'un 10 000 mètres avec des Nike Vaporfly? Voilà enfin une chaussure qui permettrait de courir plus vite. Alors, d'après les savants calculs du New York Times, la Vaporfly permettrait de gagner de 4 à 5% sur un run, sur une course. La faute à quoi? Alors, la faute à une semelle fourrée d'une plaque en fibre de carbone qui permettrait de restituer plus d'énergie, un peu comme si vous couriez avec un effet ressort. J'ai essayé, franchement, j'aurais du mal à vous dire ce que j'ai senti. J'ai surtout senti que mes camarades se moquaient de moi parce qu'à l'arrière, la chaussure est carénée, un peu comme une Formule 1, alors qu'effectivement, l'aérodynamisme n'est probablement pas déterminant pour me permettre de courir plus vite. Mais enfin, peu importe la réalité ou pas des performances de cette chaussure, ce qui compte, c'est ce que l'on pense. Et là, de toute évidence, tout le monde ou presque est persuadé qu'on court plus vite avec des Vaporfly. Il y a eu par exemple une course à Houille dans les Yvelines où les trois quarts des coureurs portaient des Vaporfly et ce risque de courir de plus en plus avec des Vaporfly va augmenter, va empirer à l'avenir tant que les autres marques n'auront donc pas elles aussi fourré leurs semelles avec une plaque en fibre de carbone. Pour le Thermomix, c'est un peu la même chose. De plus en plus de personnes pensent qu'il faut fourrer leur cuisine au Thermomix pour savoir cuisiner. C'est ainsi que ces activités qui se pratiquaient jadis ou bien dans le plus simple appareil, ou bien avec un simple appareil, requiert désormais des trésors de technologie. La course est devenue une course à l'armement.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La démocratie française à l'épreuve des inégalités avec un débat. Tout d'abord, nous entendrons Nicolas Bavrez qui tire la sonnette d'alarme sur l'avenir de nos démocraties dans l'alerte démocratique publiée aux éditions de l'Observatoire. Et il sera rejoint par Éric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. En attendant, il est 7h sur France Culture. Excellent réveil à tous.